vous aimez Sur les routes de l'Asie et souhaitez m'aider à poursuivre l'aventure en vous offrant plus d'épisodes de la meilleure qualité qui soit, si c'est le cas, je vous invite à considérer de m'aider en vous rendant sur ma page Tipeee, le lien est en description de cet épisode, sur mon site web ou en accès direct via surlesroutesdelasie.com/soutenir. Aujourd'hui, j'aimerais remercier très chaleureusement mes nouveaux tipeurs qui ont décidé de me soutenir depuis le dernier épisode, à savoir Bastien et Daniel. Merci énormément à vous deux et maintenant il me reste à vous souhaiter bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 58, j'irai interviewer Antoine chez lui. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et je suis très heureux et fier, je ne vous le cache pas, de vous présenter aujourd'hui l'interview d'Antoine de Maximi. Alors si vous ne le connaissez pas encore et que le titre clin d'œil de cet épisode ou cette petite musique vous dit quelque chose, eh bien c'est sans doute que vous avez déjà suivi ses aventures dans le cadre de son émission « J'irai dormir chez vous » à la télévision, où il part en solo à la rencontre des autres dans des pays du monde entier. Et Antoine m'a fait la gentillesse et l'honneur de m'accueillir chez lui pour que je puisse l'interviewer. On y parle de beaucoup de choses, que ce soit de sa vie d'avant le succès de cette émission, truffée d'aventures et d'expériences intéressantes, mais aussi de quelques-unes de ses rencontres marquantes en Asie, bien sûr, et de tout un tas d'autres sujets propres au voyage et à la découverte. Un épisode un peu hors série, certes, car on n'y parle pas que d'une région ou d'un thème particulier en Asie, mais vous allez le voir, ça vous intéressera tout autant. Bref, bienvenue dans le monde d'Antoine de Maximi. Eh bien, bonjour Antoine, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonjour.
Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, je suis en train d'assouvir le rêve de millions de Français, c'est d'être chez toi. Alors, c'est pas pour dormir, mais c'est pour t'interviewer. Et c'est vraiment très sympa de m'accorder ton temps, ton précieux temps pour m'accueillir chez toi et me laisser t'interviewer sur ta vie, ton œuvre, pour faire rapidement. Mais pour parler de ce que tu as fait dans ta vie en termes d'aventure et de découverte, parce que c'est le thème du podcast et je pense qu'avec toi, on est en plein dedans. Mais aussi parler, bien sûr, de ce que tu as pu faire en Asie, de tes voyages les plus marquants en Asie, de tes aventures. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de présenter qui tu es. Je pense que tout le monde te connaît. Quand on dit Antoine de Maximi, on pense à J'irai dormir chez vous, les émissions où tu pars tout seul, avec ton matériel, tes caméras fixées sur toi, une pour te filmer, une pour filmer devant toi, où tu pars à la rencontre de gens dans des pays très variés, aux quatre coins du globe, sans rien préparer. Vraiment laisser les rencontres se faire naturellement. Et t'en fais des émissions qui passent à la télé depuis 15 ans, je crois.
Ouais, 15 ans, voilà. Cette série, ouais.
Voilà. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, ou moins, en tout cas ceux qui n'ont pas lu ton livre le savent peut-être pas, c'est qu'avant de J'irai dormir chez vous, il y a toute une vie d'aventure et d'expédition. T'as commencé très jeune à partir loin, t'as couvert des guerres, t'as fait des reportages animaliers, t'as suivi des expéditions scientifiques, t'as fait plein de choses. Donc la première question pour moi, avant de te poser ma première question, il se trouve que j'ai vu sur un panneau municipal ce matin que c'était la Saint-Antoine, donc bonne fête.
Non, mais espioche.
Ah non?
Non, parce qu'en fait, il y a deux Antoines dans le calendrier, et moi, ils ont choisi l'autre, mes parents, mais bon, okay. Merci.
Bon, d'accord, merci. C'est la fausse Saint-Antoine, on va dire.
Ouais.
Ok. Oui, donc ma première question, c'est de comprendre d'où vient cette bougeotte que tu as, parce que je crois que tu as commencé à bouger, tu avais 20 ans, je crois que tu n'as pas fini tes études. Donc j'aimerais comprendre d'où vient cette envie de bouger, de faire des choses un peu folles, parce que disons-le, t'as commencé vite très fort quand même.
J'en sais rien d'où ça vient, moi. Je pense que j'ai compris très jeune qu'on n'avait qu'une vie. Et si on a une deuxième, ça sera du bonus, mais moi je suis pas parti avec l'idée qu'il y en avait une deuxième. Et d'ailleurs, ceux qui pensent qu'il y en a deux, c'est pour avoir une vie très vertueuse dans la première et peut-être moins en profiter. Moi, je profite de la vie, on verra s'il y en a une deuxième, mais j'y crois pas. Et dès le début, j'ai voulu profiter de la vie au maximum, de faire un maximum de voyages, mais pas uniquement des voyages, hein, les rencontres, des expériences, disons qu'en règle générale, j'aime pas trop répéter ce que j'ai déjà fait. Alors on pourrait dire, oui, la série, c'est quand même se répéter. Non, parce que d'un épisode à l'autre et d'un pays à l'autre, c'est vraiment très différent. Donc que ça soit pendant que je fais mes tournages ou que ce soit pendant que je ma vie normale, j'essaye vraiment de ne pas faire la même chose tout le temps.
Et on va voir que tu as fait pas mal de choses dans ta vie. Bon, tu travailles dans le domaine de la télévision, des documentaires depuis très longtemps. Tu as été ingénieur du son, cadreur, réalisateur, présentateur. Commence par nous parler de ce que tu as fait quand tu avais quoi, tout juste 20 ans et que tu es parti dans un service des armées. Service cinéma des armées.
Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, comme je n'ai pas fait d'études et que bon, ce n'était pas ma place, j'ai été viré à 17 ans, en fait, dès qu'ils n'ont pas été obligés de me garder. Et l'armée, 3 ans plus tard quand même, a été un bon moyen de démarrer dans ce métier, parce que je me suis retrouvé donc au service cinéma des armées, on va appeler ça comme ça, c'est, le nom est plus compliqué, mais il est moins simple. Alors. Et du coup, je me suis retrouvé à commencer à faire ce métier que j'étais censé connaître, et que je connaissais un petit peu quand même, puisque je m'en suis bien sorti. Et ça a été vraiment le point de départ. Et ils ont commencé à me faire un peu voyager. Je suis parti à Beyrouth, je suis parti au Canada. J'ai failli aller au Tchad. Et c'était, en tout cas à Beyrouth, c'était déjà un peu du reportage de guerre. Mais j'ai vraiment démarré dans le reportage de guerre plus tard, 2 ans plus tard, avec 4 ans plus tard, avec CBS, la télévision américaine. Et là, je faisais de l'actualité. Et là, c'était vraiment chaud, quoi.
Alors, chose, c'est-à-dire, c'était en pleine guerre ou c'était une période de conflit?
Ah oui, c'était une période de conflit. Bon, c'était la guerre du Liban, la guerre civile, mais c'était une période où ça bougeait beaucoup plus que la première fois, quoi. On s'est fait bombarder, on s'est fait tirer dessus, on a dormi dans les caves de l'hôtel à cause des bombardements. C'était chaud, ouais. Il y a eu des morts, même parmi les journalistes à l'époque où j'y étais. Enfin bon, c'était... Oui, c'était chaud.
Et c'est ça qui t'a donné ce sens de partir seul, jamais peur, où que ce soit dans le monde, parce que finalement, avoir vécu ça à 20 ans, dans sa jeunesse, ça blinde un peu, si je peux dire, non?
Oui, ça y a contribué. C'est pas uniquement ça qui a fait que j'ai décidé de partir comme ça. Mais bien sûr que... Puis surtout, ça m'a donné une certaine culture, c'est-à-dire que tu commences à te rendre compte de ce que... ça te permet de mieux appréhender la nature humaine dans des conditions extrêmes. Et ça m'a servi forcément de manière plus ou moins inconsciente, mais dans des situations délicates que j'ai pu vivre après, c'est sûr.
Donc ça, c'était le pied à l'étrier. Et puis, quelques années plus tard, en 83, je crois, tu as commencé à participer à de très nombreux films documentaires. Il y a de nombreuses expéditions scientifiques aussi qui t'ont emmené aux quatre coins du globe. Tu as fait beaucoup de choses dans l'animalier, mais tu as aussi participé à des expéditions qui allaient explorer, je crois... la banquise au Groenland ou la canopée dans les pays tropicaux. Parle-nous un peu de cette période de ta vie aussi.
Alors, effectivement, en 83, je suis parti sur 2 expéditions, une en Amazonie et une en montagne, en haute montagne. On est monté à 6000 mètres. Et ça a été l'occasion, moi, de commencer à faire des films comme vraiment réalisateur avec... tout simplement parce que j'ai accepté d'y aller. Ils cherchaient quelqu'un pour faire ces films. Moi, j'étais ingénieur du son à l'époque, mais je me sentais capable de le faire. Et je suis parti quand même 4 mois sans voir une seule image, et en 16 mm, avec des bobines de 30 mètres, une caméra, même pas avec à ressort. Il n'y avait même pas de moteur électrique. Et j'ai ramené 2 films de 26 minutes pour France 2, qui s'appelait Antenne 2 à l'époque. Et c'est... en fait, j'ai toujours privilégié les trucs intéressants et je me suis jamais occupé de... Disons que ça passait après de savoir combien j'allais gagner. Parce que j'ai vraiment compris très vite que les films, les bons sujets, dans des conditions vraiment intéressantes, étaient d'abord beaucoup plus plaisants à faire et d'autre part, il y avait toutes les chances, tous les ingrédients pour que ça soit des films réussis. Donc, l'argent passait après.
D'accord. Et alors, on va faire un grand bond en avant, on va arriver au milieu des années 2000, enfin je crois même 2003-2004, où tu as eu cette idée, celle pour laquelle tout le monde te connaît aujourd'hui, c'est « J'irai dormir chez vous ». Et je crois qu'au départ, t'étais pas vraiment sûr de ton concept, t'étais pas vraiment sûr de ces caméras que tu fixes sur toi, qu'est-ce que ça va donner, est-ce que ça va marcher auprès des gens. Parle-nous des tout débuts déjà, d'où vient l'idée, parce que là tu t'exposes vraiment, jusqu'à maintenant tu as été souvent derrière la caméra, et là tu te mets tout devant, en plus en solo, donc explique-nous un petit peu la genèse de cette idée un peu folle et le premier voyage, le premier pas.
En fait, je dirais que cette idée est une convergence de plein d'idées. C'est-à-dire que j'avais envie de faire des portraits de gens normaux. J'avais envie de faire quelque chose tout seul. Mais ça, c'est une idée que j'avais depuis très longtemps. Je me disais, ça serait marrant de faire un film où tu serais tout comédien, etc. Bon, j'ai pas encore fait ça, on verra un petit peu quand j'ai fait J'irai dormir à Hollywood. Mais et donc, je me disais, je pourrais faire tout, puisque j'ai été présentateur, ingénieur du son, caméraman, réalisateur. Donc, à la limite, j'ai les connaissances pour tout faire. Donc ça, c'était une autre idée. J'avais des parents qui recevaient beaucoup de gens à la maison, qui rencontraient comme ça, deux jours avant, ou même le jour même, mon père les ramenait à la maison, ils passaient quelques jours, voire même plus que ça, une semaine, deux semaines, qui revenaient des années après. Et donc je savais que ça pouvait se faire, d'aller chez des gens qu'on connaissait pas. Je l'avais tellement vécu que, bon. Et puis j'avais envie de m'affranchir, j'avais envie de retrouver ma liberté, parce que je faisais des documentaires à gros budget, avec beaucoup de moyens, mais beaucoup de contraintes. Et ça, j'en avais marre. Et le fait de repartir tout seul avec juste un peu de matériel, ça me plaisait vachement. Et ça a été toutes ces choses-là qui ont fait que je me suis dit, tiens, je vais essayer ce concept assez bizarre. Alors ensuite, je me suis dit, comment est-ce que je vais faire pour partir tout seul et aller rencontrer des gens partout dans le monde et me filmer surtout. Et j'ai eu l'idée de ces petites caméras et ce défi technique me plaisait. Et j'ai rencontré une boîte qui s'appelle Horus et qui fabriquait des petites caméras au départ pour le médical. Et je leur ai parlé de mon truc. Et eux, ils avaient déjà avancé depuis le médical. Ils faisaient des caméras pour filmer les voitures de course, le Paris-Dakar, des petites caméras embarquées. Et je leur expliquais ce que je voulais faire, et tout en discutant, ils me sortaient des caméras, ils me sortaient des tiges, ils me sortaient des accessoires, et en fait, en une heure et demie, de bric et de broc, mais il y avait déjà le matériel. Donc, il restait plus qu'à faire des essais. Et là, il a été super sympa, ils ont été super sympas là-bas. Ils m'ont prêté le matos, et je suis allé faire des essais au marché de la Goutte d'Or. Et puis, je me suis aperçu... Au moment où je me suis équipé chez moi, je me suis dit, non, c'est complètement ridicule, je ne peux pas sortir comme ça. C'était une idée débile. Et j'ai commencé à en remballer le matos, et en me disant, je vais le rendre, tant pis. Et puis je me suis dit, non, c'est trop con. Je veux dire, j'ai le matériel, j'essaye, ça sera peut-être ridicule, mais il faut au moins que je sois sûr que c'était une mauvaise idée.
C'était déjà l'installation actuelle ou c'était un peu différent ?
Le principe était exactement le même. Mais tout tenait avec du scotch, il y avait des fils partout, enfin c'était vraiment pas bien fait. Et je suis allé faire un essai donc à la Goutte d'Or, en prenant même un copain qui me suivait de derrière, parce que je savais pas si j'allais pas me faire emmerder, attaquer, je savais pas. Et en fait, ça s'est super bien passé. Quand j'ai regardé les images, il y avait une authenticité dans ce que j'avais filmé, les gens étaient naturels, c'était incroyable, ça les amusait en plus. C'était que du bonheur, et j'ai vraiment découvert que c'était pas une si mauvaise idée que ça. Et aujourd'hui, 15 ans après avoir fait 60 pays, ça s'est bien confirmé.
Ouais, et puis enfin, à l'époque c'était relativement unique, mais aujourd'hui, tu parles de ces caméras, c'était peut-être des prouesses à l'époque, mais maintenant c'est les GoPro dans tous les sens, les micros, celui que je tiens dans ma main, il est très très petit, donc tout s'est miniaturisé. Et surtout, j'y pensais ce matin là en venant ici, je me dis mais en fait, tu es l'ancêtre du vlog en fait, parce qu'aujourd'hui on voit du vlog partout sur YouTube, il y a des milliers de gens qui se filment en longueur de journée pour expliquer ce qu'ils font, parfois expliquer des rencontres, etc. Ce que tu fais en fait, c'est du vlog, mais 15 ans avant quoi.
Oui, il y a un peu de ça, c'est ça, et même il y a des gens qui disent parfois que j'ai inventé la perche à selfie aussi, parce que c'est vrai que c'est un petit peu ça, la tige avec la caméra dessus, c'est un peu ça. Mais en même temps, je suis pas étonné qu'il y ait plein de gens qui fassent ça, parce que c'est pour beaucoup de gens, c'est plus facile de partir en voyage avec un but de ramener quelque chose. Avant, c'était les mecs qui faisaient des diapos, hein. Ils ramenaient plein de photos, après ils faisaient des projections de diapos qui pouvaient être emmerdantes quand ils ne savaient pas suffisamment sélectionner, qui disaient tiens, ça c'est le coucher de soleil, là c'est un peu plus tard. Attends, ça va. Mais donc c'est normal de faire ça, et effectivement je suis très content d'être arrivé à le faire, et surtout d'être arrivé à le faire pour la télé. Parce que la télé, il reste encore aujourd'hui un moyen de toucher beaucoup plus de monde, quoi. Je veux dire, J'irai dormir chez vous, quand ça passe, c'est autour d'1 million de personnes qui regardent. Donc, c'est 1 million de vues.
C'est ouais, ce qui n'est pas forcément évident à voir sur YouTube quand on commence, quoi.
Ouais.
Mais oui, non, mais c'est intéressant. Et il faut quand même faire une différence avec ce que je viens de dire, c'est que les vlogs, pour la plupart, c'est quand même du tourisme. C'est-à-dire qu'on montre des choses, on explique, voilà, le temple, voilà. C'est bien aussi, hein, c'est une autre forme de découverte. Mais toi, dès le départ, c'est les gens. C'est plus les gens qui t'intéressent que le pays, finalement, ou que les paysages, ou que, voilà.
Oui, oui, tout à fait. Alors ça fait un moment que je... Ça fait partie aussi des raisons qui m'ont poussé à faire J'irai dormir chez vous. C'est que tous les documentaires que je voyais, quand il y avait un présentateur, quel qu'il soit, qui partait dans un pays et qui racontait le pays, etc., il s'intéressait en règle générale très très peu aux gens, quand c'était un petit peu, souvent c'était même pas du tout. Il parlait des paysages, ouais c'est beau, mais la France aussi, c'est super beau la France. Regardez la France comme un étranger, vous allez voir, c'est hyper beau. Dès que tu as quitté les banlieues en fait. Parce que les centres-villes, ils sont beaux, les campagnes, tout ça c'est beau, et autour de toutes les villes, il y a une zone qui est un peu moins intéressant, plus difficile, au point de vue de l'esthétique. Mais au niveau des gens, c'est partout, c'est intéressant. Et donc, ce que je voyais, c'est que tous ces films, en fait, le présentateur qui se baladait, le mec, on lui payait quand même des vacances autour du monde, hein, eh ben, il ne s'intéressait pas aux gens. Et quand il parlait avec quelqu'un, en fait, il donnait toutes les réponses à la personne et l'autre, il n'a pratiquement plus qu'à dire oui. Donc, en fait, je trouvais que ça n'avait aucun intérêt. Et donc, j'avais vraiment envie d'aller rencontrer des gens et de les laisser parler, surtout.
Et oui, c'est ça qui est vraiment intéressant. Effectivement, je vois le type d'émission auquel tu fais, dont tu parles. Mais la rencontre humaine que tu proposes dans tes émissions, elle est assez unique parce que non seulement c'est pas préparé, tu y vas sans aucune question, je pense, préalable. Tu sais même pas à qui tu vas dire bonjour, je pense, une minute avant de le faire. Et ça laisse place à des rencontres vraiment, vraiment intéressantes. Alors, je sais que tu as commencé avec le Mali en 2003, mais quelques épisodes plus tard, quelques voyages plus tard plutôt, tu t'es rendu au Japon. Et j'aimerais qu'on commence à parler un peu de l'Asie, puisque le podcast, c'est sur les routes de l'Asie, même si avec toi, c'est sur les routes du monde. Mais bon, on va quand même parler de l'Asie aussi aujourd'hui. Je vais dire rapidement la liste des pays que tu as fait pour l'émission en Asie. Donc, il y a le Japon, l'Inde, la Chine, le Cambodge, l'Indonésie, la Corée du Sud, la Mongolie, la Birmanie, le Kyrgyzstan, un peu moins connu, le Bhoutan, la Thaïlande et les Philippines. Donc c'est une belle liste. Et le Japon, j'ai lu dans une interview quelque part que tu disais que c'était un de tes voyages les plus difficiles. Alors explique-nous qu'est-ce qui a été si dur là-bas.
Alors ce qui a été si dur au Japon, c'est pour commencer que je parlais pas la langue. Parce qu'en fait les 4 premiers épisodes c'était des pays francophones. Et là, je me suis dit je vais me lancer, je vais essayer d'aller plus loin. Pas géographiquement, mais plus loin dans la démarche. Et je suis parti au Japon. Et c'était d'autant plus difficile que, normalement, j'aurais dû partir au Maroc. Mais comme j'avais peur que ça soit le dernier épisode, parce qu'il y avait des difficultés financières entre la production, entre la chaîne, qui était la seule chaîne à l'époque, c'était la petite chaîne Voyage, on ne savait pas s'il y en aurait d'autres derrière. Donc je me suis dit, bon, je m'en fous, le Maroc, j'y suis déjà allé, je ne suis jamais allé au Japon, je vais au Japon. Sauf que quand je suis arrivé à Tokyo... Eh ben, je me suis aperçu que c'était hyper dur parce que je n'arrivais à parler à personne. Il y avait pratiquement personne qui parlait anglais ou français, encore moins. Et j'étais en train de me dire comment est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais reprendre des extraits des épisodes précédents pour dire voilà pourquoi là j'y arrive pas? Parce que dans ce pays-là, j'y suis arrivé parce que la manière de rencontrer était comme ci, comme ça. Et en fait, j'ai été sauvé par un truc. C'est que j'ai une grosse discipline, je suis très bordélique moi, mais je suis en même temps très organisé. C'est un peu paradoxal. Et donc, méthodique. Et tous les matins, je regardais mes images. Et le premier matin, j'ai regardé mes images, persuadé que j'avais strictement rien dans mes cassettes. Et j'ai découvert un mec complètement perdu, en plein Tokyo, qui savait pas comment il allait s'en sortir. Et ça m'a fait marrer. Et le fait de me faire marrer, je me suis dit, mais c'est marrant ça. On se dit, mais comment il va s'en sortir? Et du coup, je me suis dit, je vais voir comment je vais m'en sortir. Et ça m'a donné une espèce d'énergie et de confiance en moi, parce que je me disais, même si j'arrive à parler à personne, toutes ces rencontres, elles sont drôles. Tu te marres de voir ce mec paumé. Et du coup, j'avais l'énergie et ça a marché. C'est-à-dire que j'ai fini par rencontrer des gens. Je me suis fait aider par des gens qui parlait pas, qui essayait de m'aider, mais rien que ça, c'était super intéressant. Et pourquoi le Japon, ça a été difficile? C'était d'une part parce que c'était le premier voyage où je partais quand même tout seul. Hein. T'es tout seul dans un pays dont tu parles pas la langue et t'as un film à ramener. Et en plus, t'es parti dans un pays et tu l'as pas dit aux chaînes. Mais là, t'as quand même pas tout mis de ton côté. Et puis la deuxième raison, c'est que le Japon est un pays où, culturellement, tu n'invites pas les gens chez toi. Même entre eux, je veux dire, quand t'as des amis, t'as envie de leur faire plaisir, tu les invites pas à la maison, tu les invites au restaurant. Et donc, j'arrivais avec une démarche qui était pas du tout académique. Et c'est ça qui fait que l'épisode est si intéressant et qu'il est si drôle.
Ouais, mais les Japonais, heureusement, sont très très gentils et polis, donc je pense que ça a dû aussi aider, parce que quand tu parles pas du tout la langue, si les gens mettent pas un peu de leur, je pense que c'est plus possible, quoi. Donc la politesse et le sourire des Japonais, quand même, a dû bien t'aider dans cette aventure. Moi, le Japon, c'est un pays que j'adore, mais effectivement, la première fois que j'y suis allé, bon, c'était dans d'autres circonstances, c'était pour le boulot, et je devais prendre le métro pour me rendre de l'aéroport à mon hôtel. Je me suis trompé trois fois de métro, quoi, parce que d'abord... Les métros, en plus, il y a plusieurs compagnies. C'est pas comme chez nous, on a la RATP à Paris et puis on suit, c'est nickel. Là-bas, il faut sortir d'une bouche de métro pour entrer dans une autre qui appartient à une autre compagnie de rail. Donc c'est quand même c'est compliqué, mais bon, ça fait partie du voyage. Nous faisons une petite pause dans l'interview pour que je puisse vous parler de Very Local Trip, qui, vous le savez, sponsorise l'émission et qui vous propose de découvrir ou redécouvrir l'Asie sous un œil nouveau. Je ne peux que vous conseiller de faire appel à eux si vous souhaitez vivre des expériences urbaines originales au sein des grandes villes asiatiques. Alors le concept est simple, vous serez mis en relation avec un ami local francophone qui vous fera découvrir sa ville lors d'une balade instructive et chaleureuse conçue sur mesure en fonction de vos envies. Donc c'est l'occasion de s'aventurer dans des quartiers authentiques tout en échangeant sur la vie locale et les bons plans de la ville. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter via leur site verylocaltrip.fr et de mentionner que vous venez de la part de Sur les routes de l'Asie, bien sûr. Je connais personnellement l'équipe qui est derrière cette belle initiative, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, et moi je les remercie de sponsoriser l'émission. Retour à l'interview. Il y a un autre pays que moi j'aime beaucoup, c'est l'Inde, et j'aime beaucoup parler du Japon et de l'Inde, parce que c'est deux pays que pour moi quasiment tout oppose. Si on prend le style de vie, si on prend comment les gens vivent, c'est quasiment toujours l'opposé de l'un à l'autre. Et ça m'intéresse de savoir quelle était ton expérience. Moi, j'y suis allé à pas mal de reprises. Cette année, j'ai fait 2 mois là-bas pendant un voyage sabbatique en Inde. Je suis notamment passé à Benares, qui est une ville mythique en Inde où je voulais absolument passer. Je sais que tu y es passé aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en général en Inde et peut-être d'une anecdote ou deux à Benares ou ailleurs d'ailleurs?
Alors, moi, la première fois que je suis allé en Inde, c'est en 83. Et là, c'était un pays qui était vraiment, vraiment différent de l'Inde d'aujourd'hui. Parce que c'était vraiment très, très pauvre. Il y avait beaucoup de gens qui dormaient sur les trottoirs. Je me rappelle, à Delhi, il y avait les gens étaient alignés sur les trottoirs, les uns à côté des autres. C'était dès que la nuit tombait, sur le coup de... Alors, c'était pas dans tous les quartiers, évidemment, mais en fait, c'était quand même super impressionnant, quoi. Des gens qui dormaient par terre, partout, qui avaient rien... C'était vraiment étonnant. La première fois que je suis allé à Benares, c'était pour j'irai dormir chez vous. Et c'était quand même en... C'était quoi, 2005? 2005, ça fait 13 ans. Non, c'était peut-être même 2004. Mais c'était étonnant. C'était étonnant parce que c'était encore... T'arrivais dans l'Inde ancienne, quoi. C'était bien sûr que c'était sale, mais ça on s'en fout. Je veux dire, c'était magique. Il y avait une atmosphère mystique, mais incroyable, parce que non, c'était vraiment magique. Moi, j'y suis retourné il y a quelques années plus tard. Ça avait déjà beaucoup beaucoup changé. Ça s'était vachement nettoyé. Le gouvernement, les gens étaient plus riches. Mais quel endroit exceptionnel! Quel endroit exceptionnel! C'est vraiment magique.
Ouais, moi j'y suis allé, donc c'était il y a quelques mois, et c'était 2 semaines après la visite de Macron, donc la ville a été un peu nettoyée. Je peux pas comparer avec comment c'était il y a 20 ans, mais c'est vrai que j'ai pas trop été choqué, peut-être aussi parce que j'ai maintenant l'habitude de l'Inde, mais il n'y a pas une saleté si impressionnante que ça aujourd'hui. Mais il y a une chose qui est intéressante en Inde, c'est quand même les gens, parce qu'ils sont pour le coup très accueillants, et en général, on n'a pas besoin d'aller chercher les gens, ils viennent vers vous pour vous proposer plein de choses. Je pense qu'à Benares, t'as dû être alpagué par pas mal de sadhus. Et là, pour le coup, je pense que c'est un pays où les gens sont très ouverts pour vous accueillir, pour vous offrir un chai, un thé épicé. Donc, est-ce que tu n'es pas tombé dans des petits travers aussi là-bas? Parce que c'est facile dans des pays aussi différents des nôtres de se laisser piéger, quoi, de se laisser emporter dans quelque chose...
Piéger par quoi?
Parce que les gens sont parfois trop accueillants, et ça peut parfois nous mener dans des endroits... Je sais que les sadhus en Inde... Il y a toujours ce débat des vrais et des faux sadhus. Les faux sadhus qui viennent te faire fumer quelque chose derrière un temple. Bon, c'est jamais bon. Sans dire que voilà, il faut avoir peur de voyager là-bas, pas du tout. Moi, j'adore l'Inde et je recommande à tout le monde d'y aller. Mais est-ce que ça a été différent au niveau du contact humain? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des aventures que tu as eues là-bas qui sont allées un peu trop loin ou je sais pas?
Moi, j'ai eu aucun souci là-bas, mais le truc, c'est que ça fait moi, je voyage depuis presque 40 ans, donc je les vois quand même venir. Et effectivement, les sadhus que tu trouves à Benares, la plupart. Ouais, c'est comme des commerçants, ils sont là pour travailler. Y a sûrement des vrais, mais c'est pas forcément ceux qui vont venir te voir. C'est plutôt ceux qu'il va falloir que tu trouves et qui seront sur le bord, qui seront plus discrets, etc. En Inde, les gens sont très avenants, très accueillants. Il y a forcément des arnaqueurs comme partout. Hein. On a tout ce qu'il faut chez nous aussi. Au point de vue des arnaqueurs, mais moi je sais pas, tu sens en même temps, en tout cas il m'est vraiment rien arrivé et j'ai pas eu de soucis quoi. Et surtout, de toute façon, quand on voyage, c'est de toute manière 10 fois plus intéressant d'aller dans des endroits où personne ne va. C'est pas forcément le trou du cul du monde, c'est simplement d'aller dans des petites villes, les endroits qui sont pas sur les grandes routes, parce que là vous avez encore l'Inde qui est intacte. Le pays, quel qu'il soit, il est beaucoup plus authentique quand tu vas dans les endroits où c'est pas totalement international, où c'est pas hyper touristique. Et ça, c'est valable pour la France aussi. Hein.
Ouais, c'est vraiment l'anti-documentaire de voyage où on va voir le top 10, en gros, c'est aller dans des endroits où les gens vivent traditionnellement. Mais du coup, avec tous ces pics que tu as fait donc, pour gérer dans mer chez vous et puis pour ta vie d'avant, le monde, il s'est quand même pas un peu uniformisé avec les années?
Sûr. Terriblement, terriblement. Moi, je trouve que la série, je suis très content de l'avoir faite, mais très sincèrement, j'ai commencé à voyager beaucoup plus tôt. Et si j'avais eu l'idée plus tôt, bah, peut-être que j'aurais jamais réussi à la monter, parce que même là, il m'a fallu plusieurs. Ça a été très très long avant que cette série démarre. Et personne n'en voulait. Hein. Toutes les grandes chaînes ont dit non, il faut quand même le savoir, ça. Mais si elle avait pu être tournée encore 10 ans plus tôt, le monde était beaucoup plus varié. Et elle aurait été vraiment exceptionnelle à cette époque-là.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vois pas forcément un bel avenir à l'émission ou tu vas un jour peut-être passer à autre chose parce que tu auras épuisé le concept ou juste que le monde sera devenu un peu moins intéressant?
Je risque de passer à autre chose essentiellement parce que j'ai qu'une vie et que je ne vais pas faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Parce qu'il y a des trucs intéressants à faire et ça va faire comme quand j'ai quitté, que j'ai dit j'en ai marre d'être ingénieur du son, maintenant je vais être réalisateur et qu'on m'a dit ah non, faut rester, on a besoin de bons ingénieurs du son. Moi je m'en fous, je vis aussi pour moi. Et donc, comme le monde s'uniformise, ça va être de moins en moins différent d'aller d'un pays ou dans un autre. C'est certain. C'est certain, je vois que même le Benares que j'ai filmé en 2005 et celui que j'ai filmé en 2011, il n'y a que 6 ans d'écart. Mais c'est pas le même. Si on regarde les deux, c'est pas le même.
Le temps se compresse. Enfin, les 6 années aujourd'hui, c'est pas 6 années, il y a un siècle, quoi, en termes d'évolution.
Oui, parce qu'avant, on était dans les histoires de tradition et on changeait pas les choses. Aujourd'hui, on est dans une société qui évolue en permanence. Et qu'est-ce qui a déclenché cette évolution? Pourquoi ça s'accélère aujourd'hui? C'est pas uniquement culturel, c'est la technique. C'est la technique. Aujourd'hui, on est sans arrêt confronté à de nouveaux appareils qui ont des fonctionnalités qui sont de plus en plus, qui sont différentes. Et donc, le cerveau aujourd'hui des gens, quels qu'ils soient, les jeunes, mais même les vieux, eh bien, ils ont des nouvelles machines, des nouveaux trucs. Bon, ça veut dire que la démarche intellectuelle des gens est en perpétuelle adaptation. Et du coup, tout ce qui est les traditions, etc., ça prend du charme, ça devient même parfois désuet, ou vintage, ou tout ce que tu veux. Mais tous les gens sont dans une espèce de démarche d'évolution permanente et de progression. Et donc, la culture, les cultures d'avant qui étaient ancestrales et qui ne bougeaient pas sur des centaines d'années, c'est fini. Et je pense que ça va peut-être même complètement disparaître.
Et tu irais jusqu'à dire que, je ne sais pas, dans quelques dizaines d'années, un siècle, 2 siècles, je ne sais pas, voilà, les villes traditionnelles, ce sera des sanctuaires, en gros UNESCO, et puis on visitera ça comme ça le dimanche, et puis que les villes, les gens qui vivent dans les villes, que ce soit un Asiatique, un Européen, un Américain, ce sera les mêmes. Ils auront les mêmes styles de vie, les mêmes modes de pensée ou...
Ça, c'est bien possible. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. D'un autre côté, tu peux avoir aussi des retours en arrière. Il y a des mouvements communautaristes qui veulent retourner vers leur tradition et qui y tiennent et qui se battent pour ça. Après, j'en sais rien. Est-ce que même en France, tout à coup, on va parvenir à des trucs hyper traditionnels j'en sais rien. Les religions, le catholicisme qui referait un retour en arrière très fort, etc. Mmh. Ça, j'en sais strictement rien. Mais on a quand même l'impression que ça s'uniformise. Tu vois, par exemple, moi, je suis parti C'est bien d'avoir des dates parce que sinon tu sais pas. En 87, ouais. Je suis allé au Pérou pour faire une expédition de montagne que j'ai filmée avec un copain. Et il y avait des jeunes qui sont montés sur un 6000 hein, quand même. Et je suis parti avec un photographe qui, lui, n'avait jamais voyagé. Et il me dit, ah ouais, bah dis donc, quand même, je suis assez un peu déçu parce que je pensais que c'était plus traditionnel que ça, le Pérou. Là, on écoute la même musique que chez nous. Et on était en train d'écouter Men at Work. Mais c'était pas notre musique à nous. C'était déjà une musique qui était mondiale. Tu vois? Et lui, il disait la musique de chez nous. Mais c'était en anglais, je sais plus s'ils sont anglais ou américains, Men at Work, je sais plus, mais tu vois? Il s'était déjà mondialisé, en train de se faire. Et le Pérou, bah, ils écoutaient aussi Men at Work.
C'est inévitable. Et alors, du coup, parce que j'ai forcément cette question, vu qu'on parle d'Asie dans mon podcast, avec toute l'expérience des rencontres, des dialogues que tu as eus avec des gens, les vrais gens, comme on dit, dans plein de pays du monde et d'Asie, est-ce que tu vois une différence, aujourd'hui encore, ou peut-être que tu l'as vu dans le passé, entre les Asiatiques par rapport aux Occidentaux, en termes de, je sais pas, ça pourrait être sur l'accueil, parce que toi, tu vas dans les pays pour te faire accueillir chez les gens quand c'est possible, que ce soit sur la réflexion sur la vie, sur plein de choses. Est-ce que tu vois quelque chose que tu as vu en Asie que tu n'aurais pas vu ailleurs?
Bah, déjà, l'Asie, c'est pas si simple, parce que c'est quand même assez grand. Et l'Asie du Sud-Est, par exemple, et l'Inde, c'est quand même assez éloigné. C'est vraiment très éloigné. Et même, là, je me faisais la réflexion il y a peu de temps, entre les Philippines et la Thaïlande, j'ai trouvé des mentalités qui étaient quand même franchement différentes. J'ai trouvé les Thaïlandais beaucoup plus rigolos, beaucoup plus... même avenants que les Philippins. Les Philippins sont super souriants au début, mais en même temps, il y a un fossé. Alors peut-être parce qu'il y a eu moins de tourisme aux Philippines qu'en Thaïlande, c'est possible. Mais j'ai quand même trouvé des vraies différences. Et du coup, moi j'ai un peu de mal à répondre de manière globale à ça, parce que même en Thaïlande, quand tu vas dans le nord de la Thaïlande et dans le sud c'est les musulmans, dans le nord c'est ouais. Et mais c'est pas du tout la même mentalité et même la même déconnade. C'est pas pareil quoi. Et donc, du coup, j'ai un peu de mal à faire une... Non, parce que c'est encore très varié. Et ça, c'est bien quand même que ces mentalités restent. Mais il y a une culture mondiale qui est en train d'émerger. Et puis, comme nous ici, on a écouté beaucoup de musique péruvienne à un moment.
Effectivement. Alors, il y avait une rencontre que je voudrais, dont j'aimerais que tu nous parles. Je me rappelle de cet épisode au Cambodge. Et il y avait un moment très très poétique où tu étais dans un village, je crois, avec un vieil homme qui s'est mis... Alors je crois que vous ne pouviez pas trop communiquer parce que bah, il n'avait pas un mot d'anglais, il me semble. Mais il avait sa flûte. Ouais. Et j'aimerais que tu nous racontes ce moment qui est vraiment un moment de poésie.
Il n'avait pas vraiment sa flûte, il avait une espèce de guitare, un tube cylindrique avec des cordes. Et la flûte, c'était moi.
Ah, c'était toi, voilà.
C'était moi parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment une flûte, c'est que je souffle dans mes mains et j'arrive à faire de la musique. Et comme ça, ça fait un peu... Et donc, ça, c'est juste en soufflant dans les mains, comme on fait la chouette, quoi. Et cette rencontre est une des plus belles rencontres de la série encore aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire que... Et je dirais que c'est aussi d'autant plus que c'est la première où vraiment j'avais créé un pont entre deux cultures, deux civilisations, la mienne et la sienne, d'une manière... avec des gens avec qui c'était totalement impossible de communiquer. C'est-à-dire, on n'avait pas un mot en commun. Et c'est par la musique que cette rencontre et cette complicité est née. Et ce qui était vraiment extraordinaire, c'est que ces petites caméras que je porte sur moi ne m'empêchent pas de regarder les gens dans les yeux, de bouger la tête, de bouger les mains. J'ai les mains libres. Et surtout, il n'y a pas une équipe autour de toi qui est en train de filmer. Et donc, cette rencontre était vraiment magique. C'est une des plus fortes de la série. Et pendant que j'étais en train de faire ça, je me disais, pourvu que ça tourne, pourvu qu'il n'y ait pas eu de problème, pourvu qu'il n'y ait pas une cassette qui se soit plantée ou n'importe quoi. Parce que je savais que j'avais chopé un moment magique et qui était vraiment ce que je voulais faire et que j'irais dormir chez vous.
Ouais, c'est vraiment une très très belle séquence. Il y en a eu d'autres, hein, des rencontres marquantes, alors en Asie ou ailleurs d'ailleurs. Je me rappelle là, récemment, il y a eu cette diffusion du retour de ton retour au Malawi où tu es retourné voir Jeannette. Cette femme atteinte de polio, c'était très émouvant aussi. Bon, c'était pas en Asie, mais ça n'empêche pas que c'était magnifique. Il y a eu des rencontres aussi un peu plus hardes. Il y a eu quand même, faut le dire, hein, il y a eu des moments où c'était un peu chaud pour toi.
Oui.
Notamment, je crois, aux Caraïbes avec cette fusillade dans la rue, en Bolivie. Bon, parle-nous quand même un petit peu des
aspects un peu plus noirs. Même en Asie, là, j'ai eu un petit moment tendu. Alors, je ne l'ai pas mis dans l'épisode Philippines qui va passer, qui est passé là, mais je ne l'ai pas mis parce que ce n'était pas suffisamment représentatif. Et c'était un peu fugitif. Mais à un moment, j'étais dans un quartier où apparemment il devait y avoir des trafiquants de drogue, ou je sais pas. Et il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a cassé la tige, mais très violemment, la tige qui tient la petite caméra. Alors il y a un raccord plastique, donc c'est pas grave, des raccords j'en ai dans mon sac, donc vraiment c'était rien. Mais c'était une vraie agression, et ça arrive parfois. Mais c'est pas une histoire de pays, c'est une histoire de mec. C'est le mec. C'est ce gars-là, ce moment-là, il était, je pense qu'il voulait pas que je reste dans le coin, c'était le deuxième jour où je venais au même endroit, donc j'ai senti que bon, c'était mieux d'aller ailleurs, c'est tout, je suis très diplomate. Hein.
Alors justement les Philippines, là on est le 5 juillet aujourd'hui, donc c'est ce soir que l'émission passe sur France 5, j'aurai certainement pas l'occasion de publier l'épisode avant, mais je pourrais peut-être mettre ce petit extrait aujourd'hui sur ma page Facebook pour voilà inviter tout le monde à regarder cet épisode. Il y a l'Arménie aussi juste avant, mais fais-nous un petit teaser, parle-nous un petit peu de ce qui nous attend dans les Philippines. Et je sais, j'ai déjà vu une séquence avec cette expérience d'œuf couvé. Donc parle-nous un peu de ça. J'ai eu l'occasion de faire pareil au Vietnam, on pourra peut-être comparer les expériences.
Alors oui, effectivement, pendant ce voyage, moi j'ai découvert l'œuf. Il y avait un gars qui vendait des œufs, je sais pas trop ce que c'était. Et effectivement, c'est des œufs de canard avec l'embryon dedans. Donc c'est un peu particulier. C'est pas mauvais honnêtement, mais ça sent pas très bon. Donc quand tu commences à casser la coquille, il y a une espèce de jus qui sent pas bon. Qui sort, et puis dedans, bah, t'as cette espèce d'embryon. Moi, le mien était très peu grandi, parce que parfois, il y en a où c'est vraiment limite un petit oiseau. Moi, c'était encore, je sais pas, il faisait 3 centimètres, c'était pas très gros. Mais au goût, c'était pas mauvais. C'était pas mauvais, c'est un peu déstabilisant. Mais moi, je me mets à la place d'un Japonais à qui on donne de la fourme d'ambert ou du maroilles. C'est quand même du lait pourri si c'est pas ta culture. Donc, du coup, j'arrive psychologiquement très bien à manger des trucs assez bizarres parce que j'oublie que je suis français à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai, il faut toujours se mettre dans la tête des autres, parce que moi, une fois, j'étais parti en Thaïlande avec un collègue vietnamien qui avait jamais mis les pieds en dehors du Vietnam. On va dans un restaurant le soir, c'était pour le boulot. Il commande un carpaccio de bœuf, il savait pas ce que c'était, et il voit arriver l'assiette et il demande de faire cuire la viande. Donc c'était un petit peu embêtant pour un carpaccio. Oui. Et après, je dis, sinon, prends une pizza. Et pour lui, la pizza était quelque chose de répugnant. Il ne pouvait pas voir une pizza, Un Vietnamien qui n'avait jamais mis les pieds en dehors de Saigon, sa ville, qui n'avait jamais mangé de pizza visiblement, et pour lui c'était quelque chose de répugnant, quoi.
Ah, c'est curieux ça, parce que comme tout est cuit. Bon.
Non, ça existe. Alors, est-ce que c'est le truc le plus dingue que t'aies bouffé, l'œuf couvé?
Non, je crois que le truc le plus fou et le plus dégueulasse, on va dire aussi, que j'ai mangé, c'est le. Comment ça s'appelle Ben, je sais pas comment ça s'appelle justement. C'est en Islande. C'est du requin fermenté, pourri, séché, remouillé. Enfin, je sais pas trop ce qu'ils font. Et en fait, le requin, d'après ce que je sais, n'a pas de vessie. Donc, il urine uniquement par la peau. Et comme c'est de la peau de requin, peut-être pas la peau, mais juste en dessous. En gros, t'as l'impression de manger un truc qui baigne dans l'ammoniaque. Et l'ammoniac, c'est l'odeur d'un vieux saut de pisse que tu aurais oublié pendant 15 jours, quoi, tu vois. Et donc, ils mangent ça. Et c'est un peu déstabilisant. Mais très honnêtement, au goût, ça va. Et puis, tu prends ça avec de l'aquavite, donc de l'alcool. Et non, ça va. Mais c'est marrant parce que c'est un truc qui est quand même assez raide et c'est dans un pays hyper civilisé.
Je pense que t'as pas pu éviter non plus les migales ou les blattes au Cambodge, non ?
J'ai pas mangé ça, non. Au Cambodge, je me suis pas battu pour en manger, mais j'ai pas eu l'occasion d'en manger. C'est pas trouvé.
Enfin, peut-être que t'as eu au Vietnam, je crois pas que tu y sois encore allé pour l'émission, parce que là-bas, moi j'ai vécu 2 ans et demi au Vietnam, et c'est vrai qu'à Hanoï notamment, plus que dans le sud, dans le nord, ils mangent des choses un peu cocasses, des rotules de chèvre, par exemple.
Ah oui.
Donc, on a la rotule et la viande qui est autour. C'est une petite anecdote comme ça, mais oui, l'Asie pour ça.
C'est en Asie aussi, de la tête de mouton chez les en Mongolie, là, dans une yourte, un peu perdue dans la campagne. J'étais parti en stop pour aller en dehors des villes et surtout en dehors de là où il y a des touristes. Il y en a pas tant que ça en Mongolie, enfin là où j'étais. Et au petit déjeuner, la tête de mouton, avec ses yeux qui te regardent et tout. Et tu manges des petits bouts de... Mais ça va, ça me pose pas de problème. Moi, je peux très bien manger des nouilles froides le matin. Je mange ce qu'il y a.
Ouais, bonne nature. Du coup, après toutes ces émissions, bon, t'en as fait, je crois, 60 piles. Je crois que c'est 60e qui est diffusé ce soir. C'est quoi la suite ? Tu vas faire les 200 pays dans le monde ou tu vas t'arrêter à un chiffre rond ? Tu veux encore faire le double ? C'est quoi le projet ?
Très sincèrement, si on avait plusieurs vies, tu vois, ou si simplement ça s'arrêtait pas à la vie, tu vois, ça durerait. Je les ferais tous. Je les ferais tous parce que c'est quand même très intéressant à faire, même pour moi, quoi. C'est beaucoup de travail, c'est très fatigant. Mais j'ai vraiment envie de continuer et je pense que de toute façon, je vais en refaire encore au moins une dizaine derrière, quoi. Mais en même temps, j'ai d'autres projets. J'ai un projet c'est un peu du spectacle vivant. Je dirais que c'est un mélange de J'irai dormir chez vous, Connaissance du monde et One Man Show.
D'accord.
Bon, j'ai déjà fait des expériences. Pourquoi j'ai pas continué à le faire ? Parce que J'irai dormir chez vous, je sais pas si je pourrais continuer très longtemps. D'abord d'un point de vue physique, parce qu'à un moment, tu commences à... c'est quand même très fatigant, c'est beaucoup d'énergie. Et puis, peut-être qu'à un moment, je serai trop connu partout, ou que ça sera trop problématique de filmer dans des pays sans avoir demandé une autorisation, il faudra être contrôlé, j'en sais rien. Il y a peut-être des raisons qui font que je pourrais pas continuer. Donc, à ce moment-là, je ferai ça. J'ai des projets de bouquins, j'ai un autre bouquin que je voudrais écrire qui n'a strictement rien à voir, mais je ne vais pas en parler tout de suite. Mais c'est carrément, disons que si, c'est un essai sur l'évolution. Donc je suis absolument légitime en rien pour faire ce bouquin, mais étant donné qu'il m'habite depuis 40 ans, eh bien c'est qu'il a un sens. Donc j'ai commencé à l'écrire et j'espère le terminer d'ici un an ou deux.
Pourquoi t'es pas légitime ? Parce que t'as quand même
nombre de personnes. J'ai pas fait d'études. j'ai bac moins 2. Moi, j'ai été viré à 17 ans. Mais j'ai juste du bon sens. Et du coup, et surtout, ça fait depuis toutes ces années que je réfléchis à ça. Je me pose des questions sur l'évolution, sur la place de l'homme dans l'univers. Et sincèrement, j'ai un certain nombre de réponses qui ne sont que des hypothèses.
Tu vois, ces réponses, elles viennent de tes voyages, de ce que tu as vu, ou juste de tes pensées à toi-même, dans ta tête ?
Non, elles viennent essentiellement, oui, de mes voyages, mais pas tant que ça. Disons que c'est pendant mes voyages que j'ai pensé à un certain nombre de choses. Et ça m'intéresse de partager ces réflexions, point final. Je revendique rien, je vais pas du tout monter une association de quoi, de qui, de quoi. Je m'en fous, je veux mon indépendance et je la garderai jusqu'au bout. Mais ça m'intéresse de le faire et puis de voir comment il va être reçu. Je vais peut-être me faire démonter la gueule, hein, ça c'est possible. Je m'en fous. Ça s'appelle la liberté d'expression, je dis ce que j'ai envie de dire et voilà. Et puis sinon, j'ai un projet de film. De fiction avec des comédiens sur une histoire totalement inventée et qui repose sur cette série J'irai dormir chez vous, mais qui n'est pas un faux J'irai dormir chez vous. Et j'en dis pas plus parce que c'est un peu trop tôt, mais ça avance bien aussi. Donc tous ces projets-là, je les ai. Et puis bon, j'en ai d'autres encore. Ouais. Bon, ça va.
D'accord, bon, on va suivre ça avec intérêt. Tu parlais des livres, il y a aussi des livres super intéressants à lire sur toi. Donc moi, j'ai le premier que tu as fait, là, qui s'appelle « Avant d'aller dormir chez vous ». D'ailleurs, ça parle surtout de ta vie d'avant, comme, oui. comme le titre l'indique, avec, on en parle au début, mais tes expéditions scientifiques, tes quelques années de reporter de guerre.
Ces expéditions scientifiques sont beaucoup plus exceptionnelles que tout ce que j'ai fait pour gérer dormir chez vous.
Oui, parce qu'on peut peut-être parler de la Cinébule, par exemple. C'était incroyable, ça.
Ben, les gens savent pas, mais moi, toute la période que j'ai eue avant J'irai dormir chez vous et après le reportage de guerre, elle est carrément exceptionnelle parce que j'ai fait des films animaliers, soit comme réalisateur, soit comme ingénieur du son, soit comme caméraman, et des expéditions scientifiques, pareil, dans les mêmes conditions, mais qui étaient absolument exceptionnelles parce que je me suis retrouvé à plonger à 5000 mètres de fond dans le sous-marin de l'Ifremer. Ça veut dire 2 heures de descente dans une sphère de 2 mètres où on est 3. Pour arriver arriver au fond de la mer, 4 heures à se balader au fond et 2 heures pour remonter. Bon, ça, c'est un premier truc. Je suis descendu dans des gouffres de glace dans la calotte glaciaire du Groenland. On a dormi sous la tente comme ça pendant plusieurs semaines, en vivant comme ça en autarcie, une expédition scientifique d'exploration absolument géniale, des expéditions sur la canopée avec le radeau des cimes. Qui était fabuleuse. Je suis descendu aussi dans un volcan. On est allé prélever de la lave. On a dormi dans le volcan avec les masques à gaz. Enfin, c'est des expéditions qui étaient absolument exceptionnelles. Et je suis même étonné de ne pas arriver. C'était toujours avec les chaînes, quelles qu'elles soient, tout le monde. T'as du mal à faire un truc qui est pas dans la mouvance. Tu vois? Moi, je voudrais les rediffuser. J'ai 8 expéditions absolument extraordinaires. Qui sont parfois avec des techniques anciennes, c'est du 4 tiers, c'est pas de la haute définition et tout ça, mais c'est des expéditions qui sont tellement fabuleuses qu'elles ont rien perdu. Tu vois, c'est comme quand tu te mets un vieux film de Jean Rouch, putain, c'est du noir et blanc, c'est le son, il est fait à part, etc. Mais ça reste passionnant.
Ouais, il y a une magie, c'est comme les vieux documentaires de Cousteau, on peut les voir aujourd'hui, ils ont 60 ans, ils passent toujours aussi bien.
Voilà.
Mais d'ailleurs, c'est parce que là tu parles de tout ça, j'ai envie de les voir, moi, ces reportages. Il y a aucun moyen aujourd'hui de remettre la main dessus, des DVD, des rediffusions sur des chaînes,
Il y en a peut-être qui sont en ligne. Moi, de toute façon, je sais que je vais y arriver. Il y a une chaîne qui va le prendre un de ces jours et on va faire une petite collection, les 8 expés et tout. Je sais que je vais y arriver. Et je sais en plus que ça va être passionnant. Donc je m'inquiète pas. Voilà. Et puis pour répondre vite fait tout à l'heure, t'as parlé de la Cinébule, c'est un truc qu'on avait mis au point avant qu'il y ait les drones, parce que pour faire des prises de vue aériennes à l'époque, je te parle d'il y a mais pas tant que ça, hein, il y a 25 ans, bon, c'est pas rien, mais ouais. Il y a 25 ans, tu voulais faire des prises de vue aériennes, ben t'avais pas 50 solutions, c'était l'hélicoptère, et puis nous on a commencé à faire des prises de vue aériennes en montgolfière. Mais c'est quand même vachement lourd. C'est moins cher que l'hélicoptère, mais il faut emmener une montgolfière, il faut avoir du gaz. Mais ça permettait de faire des prises de vue aériennes qui étaient quand même très intéressantes. Et du coup, on a mis au point, avec Danny Cléier-Marel, qui n'est autre que le pilote du radeau des cimes, inventeur du dirigeable, enfin pas l'inventeur, mais concepteur du dirigeable, avec et la plateforme qui a été faite par Gilles Bersolt. J'ai été obligé de... Tu vois, je suis désolé, je suis bavard, hein, mais...
Vas-y, c'est intéressant.
Le radeau des cimes, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dirigeable qui va déposer une plateforme en boudin gonflé et en filet qui fait 600 mètres carrés sur les arbres. Et cette plateforme a été inventée par Gilles Bersolt. Voilà. Et ça, après, tu te retrouves avec un grand tatami sur la cime des arbres sur lequel peuvent se déplacer des chercheurs et étudier la forêt. Or, c'est là-haut que les trucs les plus importants se passent. Les fleurs, les insectes, c'est là qu'il y en a le plus, etc. Bon. Et donc, je reviens à ma Cinébule. Danny Cléier-Marel et moi, et puis Jean-Yves Collet, qui était un réalisateur de documentaires animaliers, on s'est mis ensemble, c'est surtout Danny qui a fait l'essentiel, pour inventer une espèce de montgolfière plus petite, avec en dessous, à la place du panier, une banquette à 2 places. Avec à droite le pilote et à gauche le caméraman. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les drones. Et bien ça, on l'a utilisé au Mexique. Tu vois, à l'époque, tu envoyais ça à l'autre bout de la Terre pour faire des prises de vue aériennes parce que ça coûtait moins cher que de louer des hélicoptères. Et du coup, on avait des bouteilles de gaz perdues comme ça c'était sur un tepuy, je me souviens par exemple aussi, on a fait ça au Venezuela. Les tepuy, c'est des montagnes, mais c'était hyper compliqué d'y aller. Et on a fait des prises de vue avec cette cinébule, parce que en plus d'avoir cette banquette à deux places qui faisait que la montgolfière était beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, beaucoup plus facile à utiliser, c'est qu'il y avait un moteur derrière. Donc cette montgolfière était motorisée et on a fait des prises de vue absolument très spectaculaires, parce qu'on pouvait passer à ras des feuilles sans faire bouger une feuille, parce que ça souffle pas une montgolfière.
Oui.
Pas comme un hélico et même pas comme un drone. Un drone, il souffle quand même un peu. Mmh. Et je me souviens que les premiers essais, pas les premiers, mais vraiment quasi les premiers, ça a été fait au Groenland. C'est-à-dire qu'on a été en Zodiac déposer notre montgolfière sur un iceberg, qui était quand même une connerie parce que ça pouvait se casser en deux et se retourner, et nous, on se rendait pas trop compte de ça. Et on a décollé d'un iceberg. À l'époque, il n'y avait pas de moteur. Et on s'est fait pousser par le vent avec trois Zodiacs qui étaient là pour nous intercepter si on partait vers le large. Avec une eau à 2 degrés, une montgolfière, ça vole une heure. Hein. Après, il n'y a plus de gaz. Et en faisant des prises de vue avec la caméra fixée sous la selle, sous la nacelle, sous la banquette, qui passait à ras de l'eau, avec des petits icebergs tout petits qu'on appelle des grolleurs. C'est des espèces de... Ça fait 40 cm de diamètre. Et la caméra passait à 10 cm au-dessus. Tu n'avais pas une ride sur l'eau. C'était magique.
À la limite, c'est des prises de vue qu'on peut même plus faire aujourd'hui sans ça, en fait. Avec les drones, comme tu l'as dit, c'est pas exactement le même.
Ça souffle, ouais. Ça souffle. Donc, je pense que ça ferait pas la même chose. Je sais pas, on n'a pas essayé. Mais tout ça, ça faisait partie de toutes ces choses qui ont été absolument géniales à vivre. Parce qu'à un moment, on a été obligé de se poser sur un iceberg, on n'arrivait plus à s'arrêter. Moi, j'avais un piolet, le vent nous emmenait vers le bord de l'iceberg, on allait tomber dans l'eau. De 4 ou 6 mètres, enfin, ça a été sans arrêt des moments de grande, grande, grande intensité. Même là, je parlais du film animalier, quand j'étais en Amazonie, quand on a filmé Les Singes avec Gérard Vienne, c'était un film qui était produit par Jacques Perrin, qui a été en sélection officielle à Cannes. Hein. Moi, j'étais ingénieur du son, on était en pleine Amazonie, en forêt inondée, t'as de la forêt partout, mais en bas, tu te déplaces en pirogue. Et on avait construit des plateformes dans les arbres pour filmer les singes. Et moi, je me rappelle, je suis allé passer une nuit tout seul dans une petite maison qu'on avait fait construire dans un arbre qui était à peu près mosquito-proof, parce que là, t'es emmerdé par les moustiques. Mais putain, mais c'est des moments que tu vis, t'en vis pas 50 000 dans ta vie, quoi. Et moi, j'ai eu la chance d'en vivre beaucoup.
C'est sûr, et c'est une magnifique aventure, et on peut retrouver celle-ci encore plus détaillée et bien d'autres dans ce bouquin dont je parlais, avant d'aller dormir chez vous. Je sais que tu as sorti aussi deux tomes de carnets de voyage, enfin carnets de gérer dormir chez vous, où tu racontes des histoires voilà, qui te sont arrivées dans tous les pays que tu as traversés. Il y a aussi tes films, hein, bien sûr, J'irai dormir à Hollywood, J'irai dormir à Bollywood. J'ai pas vu le dernier sur Burning Man,
mais je crois.
Non, mais il faut que je le fasse.
Là, c'est pour ça que t'en parles pas, parce que.
J'ai entendu parler du Space Cake, mais j'ai
oui,
pas
mais
vu
ça,
le.
Ça, c'est un détail, parce que Burning Man, c'est un environnement absolument incroyable. C'est une fête, hein, en même temps.
Ouais.
Mais c'est exceptionnel. Et même très honnêtement, les gens me disent pourquoi tu viens pas au Hellfest? Pourquoi tu viens pas à la fête de ceci en Pologne? Pourquoi tu viens pas à... Mais parce que je pense que tout est en dessous de Burning Man. J'ai commencé par Burning Man et maintenant. J'ai peur que les autres soient pas aussi forts. Parce que Burning Man, en trois mots, c'est un rassemblement qui est une espèce de fête, mais tout le monde est déguisé. Alors, t'as le côté vraiment formidable de gens qui donnent, qui sont dans une espèce de communauté, parce qu'ils sont au diapason. Mais en plus de ça, que tu vas retrouver probablement au Hellfest, dont on me dit beaucoup de bien et je pense que j'irai un jour, mais où que tu vas retrouver dans plein d'endroits où les gens se réunissent parce qu'ils veulent faire la même chose. À Burning Man, il y a un truc en plus, c'est la folie visuelle. C'est-à-dire que tout le monde est déguisé. Ce qui fait que pendant une semaine, où que tu poses tes yeux, tu ne vois rien que tu as déjà vu. Tu vois, c'est une atmosphère complètement folle. Et ils fabriquent des véhicules incroyables. Par exemple, tu as un trois-mâts, un vrai trois-mâts qui se déplace dans le désert. Donc oui, c'est un autobus qui a été complètement modifié. Mais tu vois passer un trois-mâts dans le désert. Tu vois passer une espèce de grosse cigale qui fait plusieurs mètres de long. Tu vois un poulpe géant qui crache du feu. Tu vois que des trucs comme ça.
T'as pas besoin de Space Cake pour délirer. Tu délires même, à l'état brut.
Ah, bien sûr. Puis moi, en plus, Space Cake, j'en ai pris un dans ma vie. Hein. Et c'était à Burning Man. Je ne suis pas du tout adepte de ces trucs-là. Mais tout est fabuleux, fabuleux, partout, partout. Et avec des gens qui sont là, avec l'idée de donner. Donc tout le monde amène. C'est comme tu ferais une grosse bouffe chez toi, et puis tout le monde amène à manger, et puis après, tu ne regardes pas qui mange quoi. Ben, c'est pareil, sauf que c'est à l'échelle d'une semaine, de 70 000 personnes, et que c'est valable pour tout, l'alcool, tout. Tout le monde donne, tout le monde partage. Ouais. Donc c'est vraiment fou.
Bon, il faut que je le voie, et là je pense tout de suite, effectivement je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'événements dans le monde où il y a cette folie. Je pense peut-être au Kumbh Mela en Inde, mais bon, il faut s'accrocher,
oui,
faut s'accrocher.
Ben, j'y suis pas allé, ouais. C'était pas l'année, la bonne année pour moi.
Peut-être une prochaine fois. Ouais. En tout cas, voilà, il y a plein de manières de prolonger le plaisir, que ce soit avec tes livres, tes films, les futurs épisodes à venir, tes futurs projets dont tu as parlé.
Faut surtout lire le premier bouquin, c'est le plus intéressant. Ouais. C'est un livre de poche aujourd'hui, il vaut 6 euros quelque chose.
Ouais. D'ailleurs, je l'ai apporté le mien, tu vas me le dédicacer s'il te plaît, à la fin. Yeah. Il est là.
Première édition.
Et pour finir, une question. Je pense qu'avec cette émission, tu as quand même suscité beaucoup de vocations. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être sont mis à faire des vidéos, à se filmer en voyage, que ce soit en vlog ou autre. Mais est-ce qu'il y a un secret, Antoine de Maximy ? Parce que quand on te voit, tu as une facilité à approcher les gens qui est assez déconcertante. Alors, est-ce que ça cache des débuts très difficiles avec peut-être une timidité, ou est-ce que c'est juste toi, ta nature ? Et est-ce que tu as des conseils à donner aux gens qui voudraient se lancer mais qui sont un peu coincés ? Moi, je dois le dire, j'ai lancé un vlog par rapport à mon voyage donc, en Inde cette année. Petite vidéo qui expliquait un peu ce que je faisais. J'ai parfois fait 20 fois la prise parce que j'étais tétanisé de parler devant une caméra et d'expliquer ma vie, en fait. Et j'aimerais comprendre, voilà, est-ce qu'il y a un secret ? Est-ce que c'est les années, l'expérience ou voilà ?
Ouais, je pense que un des trucs les plus importants, c'est une tare. C'est-à-dire que je reconnais pas les gens, moi. Mais vraiment... si je m'applique et que je décide de mémoriser un visage, je vais à peu près y arriver. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose que je ne cherche pas à stocker. Résultat, j'ai passé ma vie à rencontrer des gens sans savoir si je les connaissais ou pas. Et très rapidement, je me suis mis à parler aux gens comme si je les connaissais, parce que je ne savais pas trop si je les connaissais. Et je me suis aperçu que les gens, quand tu leur parles comme si tu les connaissais, ne savent pas s'ils ne te connaissent pas. Tu vois ? Et très souvent, tu arrives à établir un contact extrêmement sympa sans avoir rien fait d'autre que ça. Donc ça, c'est une première raison qui fait que cette série existe et que j'ai le contact facile. La deuxième raison, c'est que tu t'aperçois, après, ça c'est plus du raisonnement, et c'est donc le conseil que je pourrais donner aux gens qui n'ont pas ce tard. C'est que, en fait, quand tu demandes des choses ou quand tu arrives très gentiment vers quelqu'un et qui te fait la gueule, c'est pas toi le perdant, c'est lui. Parce que qui c'est qui a une vie de merde ? C'est celui qui fait la tronche. Parce que lui, qu'est-ce qu'on lui renvoie à lui qui fait la tronche tout le temps ? Ben, pas beaucoup d'amitié, pas beaucoup de tendresse, pas beaucoup de gentillesse. Mais c'est un truc auquel je pense souvent quand... Tu vois, hier, par exemple, j'étais en voiture à pédale. Bon, moi, j'ai une voiture à pédale, je roule dans Paris, j'adore, je m'amuse, bon. Et à un moment, je vois une nana qui courait. Et donc, je lui propose de l'emmener. Mais une nana qui court et que tu abordes comme ça, souvent, elle s'imagine que tu la dragues. Ce qui n'est pas complètement faux non plus, parce que ça fait partie de la séduction. Mais elle m'a répondu d'une manière extrêmement désagréable. Alors que je posais vraiment de la faire gagner du temps, c'était rigolo. Mais si ça avait été une nana fantaisiste, ça l'aurait amusée. Elle avait peut-être 15 000 soucis et 15 000 raisons de ne pas avoir envie de me parler. Mais je me suis dit, je m'en fous. C'est elle qui a une vie de merde et qui, en tout cas, qui vit un mauvais moment en ce moment. Tu vois ? Donc, tout ça pour dire quoi ? Pour dire que quand tu as envie de parler à quelqu'un, quelle que soit la raison, vas-y spontanément, ça marche pas. C'est pas toi qui est passé un mauvais moment, c'est l'autre qui vit des trucs pas drôles. Et moi, en fait, bah, je me suis aperçu que qui que ce soit, un vieux, un ronchon, un machin, bah, très souvent, il est tellement content de voir arriver quelqu'un de souriant que ça bascule. Et puis les fois où ça marche pas, bah, c'est pas grave. C'est tout.
Ça arrive. Eh ben, en tout cas, Antoine de Maximi, merci beaucoup. Merci d'avoir pris de ton temps pour m'accueillir chez toi. Alors, j'aurais pas dormi chez toi, mais je t'aurais interviewé chez toi. Et ça, c'est quand même très sympa.
Ben voilà.
J'ai appris plein de choses. Et puis voilà, je pense que les gens qui te connaissent pas, s'il en reste, vont s'y intéresser. Et pour tous les autres, je pense qu'ils vont se délecter des futurs épisodes à venir et de tout ce que tu fais à côté. Merci beaucoup. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin pour conclure.
Bah, à bientôt. Moi, c'est un peu ce que je dis à chaque fois. D'ailleurs, tiens, pour les J'irai dormir chez vous, vous regarderez un truc. Que ça soit le plateau de début et le plateau de fin, c'est-à-dire les deux interventions d'ouverture d'émission et de fermeture d'émission, je dis pas grand-chose d'intéressant parce qu'on s'en fout. Ce qui est important, c'est le voyage.
On va finir là-dessus. Et ben, c'était un grand plaisir encore une fois, Antoine. Et puis à bientôt.
À bientôt.
Nous voilà au bout de cette interview avec Antoine de Maximi, que je remercie vraiment chaleureusement d'avoir participé à mon podcast et de m'avoir invité à le faire chez lui. Je n'allais pas bien sûr laisser passer une telle occasion, d'autant plus que je fais moi-même partie des fans de ce grand voyageur aventurier qui nous délecte depuis toutes ces années d'épisodes de J'irai dormir chez vous, avec une sincérité et une authenticité qui est extrêmement rare aujourd'hui à la télévision. 15 ans déjà, et toujours autant de plaisir à le suivre dans ses pérégrinations à la télévision. Une vraie source d'inspiration, je pense, pour les voyageurs que nous sommes, en quête de cette authenticité. Et après coup, je me dis qu'il fallait absolument qu'il vienne un jour parler à mon micro dans le podcast. Voilà qui est fait, j'espère que ça vous aura plu, et je vous invite à vous rendre sur la page de l'épisode pour retrouver tous les livres et DVD d'Antoine sur lesroutesdelasie.com/58. J'en ai parlé rapidement à Antoine pendant l'interview, j'ai moi-même fait l'expérience de ces petites vidéos faites sur le terrain pour vous raconter mon voyage de 2 mois en Inde cette année, de Goa jusqu'à Calcutta. Ces 16 petits épisodes à retrouver sur ma chaîne YouTube en accès direct depuis mon site web dans la rubrique vidéo, ou bien en cherchant sur les routes de l'Asie sur YouTube tout simplement. À côté de ça, sachez qu'il y a 2 choses que vous pouvez faire pour me soutenir dans tout ce que je fais. La première, c'est de laisser un commentaire et une note sur iTunes. Aujourd'hui, je voudrais citer celui de Merak95 qui a mis 5 étoiles en disant « Un podcast remarquable pour les amoureux de l'Asie, un contenu riche avec des invités remarquables permettent de mieux découvrir ou redécouvrir les différents pays d'Asie mais aussi d'approfondir la connaissance des différentes régions. L'émission est toujours traitée de manière très pro et le contenu toujours élaboré, indispensable. » Fin du commentaire. Alors là, écoute, mes chevilles enflent. Merci infiniment à toi pour ces gentils mots et j'espère que l'épisode d'aujourd'hui sera parfaitement rentré dans cette lignée. Et puis la deuxième chose que vous pouvez faire pour m'aider à aller encore plus loin avec le podcast, c'est de contribuer financièrement en rejoignant ma chère équipe de Deeper via la plateforme de financement participatif Tipeee. Les dons commencent à 1€ par nouvel épisode publié et c'est absolument sans engagement. Donc si vous aimez Sur la route de l'Asie et souhaitez m'aider à développer le podcast davantage, vous savez que vous avez cette option. Et moi, je vous dis un grand merci si vous avez déjà fait ou allez faire le pas prochainement. Comme je le disais dans l'épisode précédent, j'ai encore du très bon contenu en stock pour vous et je vous donne rendez-vous avant la fin du mois, c'est promis, pour le prochain épisode avec une nouvelle fois une très belle rencontre à vous faire partager. D'ici là, continuez de passer un bel été. Merci pour votre écoute et excellent voyage en Asie.